Grand Matin Sud Radio.
Et il est 8h43, Philippe Verdier, vous recevez Gérard Leclerc.
Gérard Leclerc, philosophe, journaliste et auteur d'un livre « Sous les pavés l'esprit » aux éditions France Empire Salvador. On va parler justement de ce mai 68 dont on parle tant, peut-être d'une autre manière, en prenant un petit peu de hauteur, un petit peu de recul, parce que vous le dénoncez d'ailleurs dans ce livre, on en fait parfois un petit peu trop sur mai 68. C'est devenu un mythe, c'est vraiment de l'histoire passée, totalement passée même, ou dépassée.
Ah oui, le monde a complètement changé depuis. Les grands acteurs de mai 68, par exemple le Parti communiste, il a quasiment disparu de la scène, alors que c'était une force considérable à l'époque. Même les groupes gauchistes on en a fait des tonnes sur les déprédations du 1er mai, mais l'extrême gauche aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était non plus à cette époque. Et nous sommes très loin de ce qu'a vécu l'Italie des années de plomb. Nous sommes dans un autre monde et la transposition de mai 68 à aujourd'hui s'avère à mon sens très périlleuse.
Alors quand avant-hier par exemple un vétéran interpelle Emmanuel Macron lors du défilé du 8 mai en lui disant, si je peux me permettre, soyez très ferme avec tous ces gauchos de la politique qui veulent foutre la merde, je le cite, ces gauchistes dont vous parlez également dans votre livre, est-ce qu'ils sont encore là aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont une réelle puissance?
Non, mais je crois qu'ils sont, résiduels. Ils apparaissent de temps en temps, lors des G20, etc. On assiste dans les grandes villes.
En fait, ils sortent de leur boîte et après ils rentrent. Et c'est,
absolument, voilà, on les voit plus. Non, ce ne sont plus des acteurs majeurs. Et on voit aujourd'hui une tentative de ressusciter l'insurrection de mai 68, notamment dans les universités. Et à mon sens, ça ne démarre pas. Et évidemment, il y a des groupes constitués, etc. Mais la masse des étudiants ne suit pas.
Même chose pour les mouvements type Nuit Debout, ou même ce mois-ci la fête à Macron, ça fait pchit tout ça?
Oui, c'est un mauvais remake de mai 68, ça démarre plus, bon, parce que nous ne sommes plus dans la même période, ne serait-ce que du point de vue de la situation économique. En 68, on était dans une situation de plein emploi. Aujourd'hui, il y a un chômage endémique et on est à la recherche de sécurité. On n'a pas du tout envie d'aller à l'aventure, quoi.
Ça, c'est l'élan, des paramètres. L'élan qu'il y avait justement dans ces mouvements de mai 68, c'était quoi? De l'innocence? Vous parlez dans votre livre d'un peuple adolescent, d'un côté très, très juvénile, et pas seulement dans les jeunes qui étaient sur les barricades, mais dans l'esprit de mai 68, ce qui est l'objet, oui, de votre livre. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. On est plus aussi innocent sur le monde?
Oui, parce que les illusions ont disparu. Les émeutiers, les principaux émeutiers de mai 68 sont rentrés dans le système, sont devenus des cadres très performants, parfois dans les grandes entreprises. Même quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit, qui était un petit peu la figure incandescente, etc., s'est quand même sérieusement rangé dans l'ordre politique. Mais prenons un journal comme Libération. Mm-hmm. À l'origine, c'était un brûlot maoïste extraordinairement violent, hein, qui voulait tout casser.
Et aujourd'hui, c'est quoi?
Aujourd'hui, c'est un journal que je définirais comme libéral-libertaire, qui est quand même rentré dans les rails. De 68, il a gardé...
Donc c'est une sorte,
c'est
sorte
la question
de posture,
des mœurs,
en fait.
Qui fait encore aujourd'hui l'originalité de Libé. Mais il n'est plus question d'aller casser le capitalisme. Hein,
Alors vous, en mai 68, vous étiez présent, vous étiez contemporain à ces événements. Finalement, vous étiez dans cet événement en tant que royaliste? C'est quand même rare, non?
Oui, mais
racontez-nous.
Il y a eu deux périodes, si vous voulez. Il y a une première période, on s'est demandé ce que ça allait donner, parce que les gars qui menaient la bagarre, si j'ose dire, ils avaient dans la tête le schéma de 1917. Hein, on allait refaire la révolution de Lénine. Saint-Pétersbourg, 1917, allait être reproduit à Paris, 1968. Or, ça ne s'est pas déroulé du tout comme ça. D'autre part, parce que le Parti communiste ne voulait pas la révolution. Tout de suite, il s'est engagé avec Pompidou et la CGT dans une vaste négociation qui a abouti à des accords précis. Donc, les gauchistes, ils ne voulaient pas de ça. Mais bon, mais leur rêve de révolution ne s'est pas accompli. Alors moi, dans une première période, je redoutais quand même un coup de Trafalgar qui ne s'est pas produit. Et donc, dans une deuxième phase, je suis rentré en quelque sorte dans la contestation où on m'a laissé la place. C'était l'aspect sympathique de 68, c'est qu'il y avait, comment dirais-je, les idéologies se déverrouillaient quand même. On parlait marxiste dans la rue, mais on était en train de quitter l'univers marxiste qui avait dominé l'université depuis la guerre.
Pourtant, dans votre livre, vous nous dites que les jeunes qui étaient sur les barricades n'y connaissaient pas grand-chose à la philosophie, aux idées de Marx, de Trotsky, dont ils scandaient les slogans et les idées.
Il y avait une différence fondamentale. Moi, j'ai connu quelqu'un qui s'appelle Philippe Robrieux, qui était un excellent historien du Parti communiste. Il m'a raconté qu'il avait, en 68, il avait abandonné la vie politique. Mais voyant les grands rassemblements, il est allé dans les manifs, mais il s'est aperçu que son savoir de militant léniniste, voire syndicaliste, ça mordait plus. Il était devant des jeunes qui appartenaient à un autre monde, à une autre culture. Et c'était ça, l'originalité de 68, c'est que ça n'a pas du tout produit ce qu'on attendait, mais ça a produit le monde d'aujourd'hui, c'est vrai.
Au XXe siècle, il y a eu une vraie révolution, un vrai changement en France. C'est pas mai 68, c'est le Front populaire en 36.
Non, parce que je crois que les deux événements sont quand même de nature très différente, si vous voulez. Je pense que si 68 est un véritable événement, parce que il n'a pas produit une révolution politique, mais il a produit quand même, il a accompagné une révolution des mœurs et produit une véritable révolution culturelle dont nous ne sommes pas sortis.
Et également spirituelle et même religieuse. Vous êtes spécialiste évidemment de la religion, éditorialiste à France catholique. Vous nous dites qu'après mai 68, il y a un phénomène qui parfois passait inaperçu. Les églises se sont vidées non pas de leurs fidèles, mais également de leurs prêtres, de leurs curés. Tous ceux qui avaient moins de 40 ans sont partis.
Oui, alors là, c'est bon. Il y avait eu, avant 68, il y avait déjà un effondrement de la pratique religieuse. 68, c'est la révolte du clergé. Et 75, pour moi, c'est le départ, la disparition même des catholiques de gauche qui avaient dominé la scène catholique depuis la guerre. Mais en 60, Emmanuel Leroy de la Durée, l'historien, disait que les classes qui avaient été le plus affectées par 68 étaient les classes intellectuelles. La magistrature, l'école, l'éducation nationale, mais aussi le clergé. Et plus que les autres classes intellectuelles, le clergé a été le plus touché par mai 68. On a eu des milliers de parmi les séminaristes, parmi les jeunes prêtres.
Christophe Bordet.
Oui, alors évidemment, on en parlait il y a un instant. Aujourd'hui, beaucoup à gauche rêvent du grand soir. 50 ans après, voudraient qu'un mai 68 ait lieu aujourd'hui. Quand même une chose par rapport à ce que vous avez dit. Effectivement, on a un chômage qui est endémique. On n'est pas en plein emploi comme en mai 68. On aurait envie de se dire pourquoi les Français ne renversent pas la table ? Qu'est-ce qui a changé qui fait que les Français, alors qu'ils sont dans une situation bien plus difficile, en quelque sorte, ne renversent pas la table ?
Parce qu'il n'y a pas de perspective utopique, si vous voulez. Mmh. Il y avait une utopie, malgré tout, en 68, l'utopie communiste ou communisante. Il y avait aussi les modèles du tiers-monde. On regardait du côté de Castro, par exemple. Mais tous ces mythes ont disparu. Le mythe révolutionnaire a disparu. Le mythe même de la révolution a été pulvérisé.
Donc il n'y a pas d'horizon, quoi. C'est pour ça que ça ne prend pas.
Il n'y a pas d'horizon. On ne peut pas sortir des rails du capitalisme libéral. Et on est en situation d'insécurité permanente. Mmh. Hein, le plein emploi en 68, c'était rassurant quand même. On pouvait rêver. Mais quand on est en situation de précarité, on ne peut pas rêver.
Mmh. Dites-moi, Gérard Leclerc, aujourd'hui comme hier, avez-vous l'impression que le pouvoir, quand même, ne comprend pas la colère des Français et la colère du peuple. Je prends un exemple. Hein. En mai 68, pendant que ça casse, que ça brûle dans les rues de Paris, Pompidou et ses collaborateurs discutent Sigard Davidoff est parti de chasse. Donc il y avait un décalage quand même qui était assez important. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'un décalage comme celui-ci, à votre avis, existe toujours d'une certaine manière ou pas ?
Oui, il y a toujours un décalage. Le pouvoir actuel.
Macron aime les chasses présidentielles, hein, pour le rappeler.
Sans doute, oui.
Il aime les chasseurs aussi.
Les chasseurs.
Il y a ce que Jean-Pierre Chevènement appelait les élites mondialisées qui représentent une certaine aristocratie. Et c'est vrai que, ils sont souvent loin du monde réel, de ce qu'on a appelé la France périphérique, qui est en pleine déshérence. Mmh. Et de ce point de vue-là, s'il y a des potentialités de révolte, elles sont de ce côté-là.
Il y a quelque chose de moderne quand même, dans ce que vous dites, enfin moderne dans le sens où aujourd'hui, c'est ce que l'on vit.
Oui.
Il y a la France périphérique, il y a cette France bourgeoise qui est au pouvoir, qui ne comprend pas toujours ce que le peuple lui demande ou souhaite. Ouais.
La situation est tendue, si vous voulez. Je m'insurge parce que je pense que ça n'est pas le gauchisme qui nous menace aujourd'hui.
C'est quoi ?
Mais il y a une stratégie d'attente. Ben, écoutez, les révoltes de 2005 dans nos banlieues, dans les quartiers perdus de la République, elles peuvent se renouveler demain parce que la situation n'a pas changé. Les causes qui ont permis cette formidable explosion, elles n'ont pas changé. Donc nous sommes toujours à la merci d'une explosion.
C'est là aujourd'hui que c'est le plus éruptif, le plus risqué.
Enfin, pour moi, le risque est permanent. Et puis, il y a quand même la question du fondamentalisme islamiste qui est là derrière et qui est une menace de nature mondiale. Donc, les dangers... Alors, il y a la France pauvre. Moi, je suis originaire du nord de la France, d'un département de l'Aisne. Ce département est en déshérence totale. Il y a des petites villes qui se meurent. Et cette France-là...
Et cette France-là ne se soulève pas.
Non, elle ne se soulève pas.
On ne l'entend pas.
Son soulèvement, c'est le Front National, c'est de voter Front National. Oui. Voilà. Oui. C'est comme ça que s'exprime la colère, pour le moment.
Oui. Dites-moi, justement, par rapport à 68, on peut dire quoi que quelque part, le Front National, l'extrême droite, a pris la place du Parti communiste, quelque part.
Dans une certaine mesure, c'est vrai, bien sûr. Il suffit de voir l'électorat du Front National dans le Nord. Dans le Nord, c'est l'ancien électorat communiste, voire socialiste. Donc, c'est vrai que Marine Le Pen est un peu dans la situation de Georges Marchais. Elle est la voix du peuple, d'une certaine façon.
Une dernière question par rapport à tout ça. Macron, il a un rêve qu'il est en train de réaliser. Affaiblir les syndicats, détruire les syndicats, dynamiter les syndicats comme il a dynamité la vie politique. Est-ce que vous pensez qu'il peut y arriver ?
Ça, je ne crois pas.
Dans la manière dont il fonctionne aujourd'hui.
Oui, il est efficace à sa façon. Jusqu'ici, il n'y a pas eu d'obstacle majeur. Mais comment ça va se terminer, etc. On n'est pas à la merci quand même d'un accident.
Gérard Leclerc, Christophe Bordeaux, on va accueillir Olivier de Bordeaux qui nous écoute et qui veut intervenir sur l'antenne. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Posez votre question, on vous écoute.
C'est déjà un petit commentaire parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait. J'ai une petite question, mais je vais faire un ou deux commentaires d'abord.
Une question très courte parce qu'on n'a plus beaucoup le temps en fait.
Et c'est un peu compliqué, je ne peux pas faire une question sans faire de commentaire. Mais je vais très vite, juste pour dire que... parce qu'il y a des choses qui me posent problème quand on dit que les gauchistes attendent le grand soir et que les étudiants se revendiquent de 68. Moi, j'ai entendu les étudiants, ils ne se revendiquent pas de 68. Hein. Et les gauchos, ils sont très, très peu nombreux à attendre le grand soir. Je crois que ça, c'est plus un fantasme de la droite et des journalistes. Mais bon... par contre, le reste est très intéressant. Je voudrais juste poser une question, finalement, parce que quand on dit qu'il n'y a pas d'utopie pour les jeunes, est-ce que finalement, l'écologie ne pourrait pas être la nouvelle utopie pour les jeunes? Parce que moi, je les entends beaucoup parler, justement, en ce moment. Et est-ce que finalement... Alors, je ne sais pas si ça provoquera un grand soir.
Bonne question, Olivier. L'écologie, justement, est-ce que ça peut être une utopie, Gérard Leclerc?
Oui, je crois, oui. Oui, mais c'est pas du tout de la même nature que les utopies révolutionnaires d'autres
fois. C'est une porte ouverte sur l'avenir aussi, sur un autre monde.
D'une certaine façon, c'est une utopie régressive. Par rapport...
Oui et non.
Par rapport aux données de la société industrielle, etc., ça suppose...
Une reconnexion à la nature aussi.
C'est une autre nature. C'est une autre philosophie. C'est très différent des utopies anciennes.
Merci beaucoup Gérard Leclerc, sous les pavés l'esprit, chez France Empire Salvateur. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Olivier à Bordeaux. J'ai Christophe Bordeaux. On se retrouve tout à l'heure pour le duel.
Absolument.
Allez, à suivre le journal et juste avant, ce qui compte le plus en ce jour férié, la météo.
Le Grand Matin Sud Radio.